On se dit tout sur France Bleu, Ségolène Aluni.
Et aujourd'hui, France Bleu a choisi de parler d'un sujet qui touche près de 15% des Français. Un adulte sur 6 est considéré comme obèse en France. Et les solutions pour venir à bout du surpoids sont de plus en plus nombreuses. Mais sont-elles vraiment efficaces? Ça, c'est une autre histoire. Alors on a surtout choisi de parler de l'étape d'après. Parce que finalement, aujourd'hui, c'est très facile de perdre du poids rapidement.
J'ai perdu 58 kilos. J'étais arrivé à plus de 140 kilos dans les derniers épisodes de Camping Paradis fin 2014. Et voilà, je me suis opéré le 11 décembre 2014 et j'ai perdu en 10 mois 50, 55 et puis 56, 57, 58. Dès que j'abuse un petit peu, ça remonte un peu, donc je fais attention, voilà.
Voilà, exemple probant et fascinant du comédien Laurent Ournac qui s'est littéralement métamorphosé, pourtant changé de silhouette, peut-être vécu comme un traumatisme psychologique. Laurent Ournac lui-même a traversé une période de dépression. Acceptation de soi, stabilisation, changement d'habitude alimentaire, autant de complications à prendre en compte après une opération ou un régime. Perdre des kilos, oui, mais qu'est-ce qui se passe après? On en parle avec une âme bienveillante, diététicienne spécialisée dans la chirurgie de l'obésité depuis plus de 10 ans. Bonjour Julia Bonnemaison.
Bonjour et merci pour votre invitation.
Merci d'être avec nous. C'est vrai qu'il existe de vraies solutions pour venir à bout de l'obésité, mais si on met de côté le suivi diététique et psychologique, c'est inutile.
Enfin, clairement. Clairement, s'il n'y a pas un suivi derrière, toutes les solutions qu'on peut proposer pour l'obésité sont vouées à l'échec, en tout cas sur du long terme. Sur du court terme, on a toujours un résultat probant, mais sur du long terme, c'est beaucoup plus difficile.
Alors justement, on attend vos témoignages au 0810 055 056. Par quels moyens avez-vous réussi à perdre du poids? Régime, chirurgie et surtout, comment avez-vous vécu la perte de kilos, les changements d'habitude alimentaire, etc. Ça a peut-être été un calvaire pour vous. On se dit tout sur l'obésité et sur la façon dont on s'en sort.
Vos témoignages, vos expériences. On se dit tout sur France Bleu.
90%, c'est le taux d'échec des régimes amaigrissants pour l'obésité et le surpoids. Vous avez peut-être fait les frais de ces régimes. Bah oui, parce que finalement, Julia Bonnemaison, c'est tentant. On dit qu'on va s'en sortir par soi-même, que c'est juste un peu de bonne volonté pendant quelques semaines, qu'on va réussir à modifier son alimentation. Bah les résultats, concrètement, ils sont pas là.
Exactement, et c'est pour ça qu'on voit tous les phénomènes de yo-yo, c'est-à-dire que les gens arrivent généralement à perdre du poids, ça, il n'y a pas trop de soucis là-dessus, mais après, pour maintenir la perte de poids sur du long terme, c'est là où se posent les problèmes, et c'est, généralement, on reprend toujours plus que ce qu'on a perdu, et donc on arrive à des poids généralement plus hauts que le poids de départ.
Donc c'est dingue, 90% d'échecs.
Bah, c'est pour ça que ça nous montre aussi que c'est pas uniquement une histoire de volonté, c'est pas 90% de gens pas motivés, c'est vraiment qu'au bout d'un moment, le corps se met vraiment en restriction, on diminue le métabolisme, c'est-à-dire qu'il faut toujours de moins en moins de calories pour juste maintenir son poids. Donc après, il suffit juste de remanger normalement pour que vous repreniez plus que ce que vous avez perdu.
Alors, on va en discuter avec Jeanne qui nous appelle depuis la Moselle. Bonjour Jeanne.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Donc, oui, par rapport... Donc, moi, j'ai pas fait de restriction. Ce que je vous explique, il y a 3 ans, donc en 2015, je faisais 101 kilos.
Oui, et vous mesurez combien, Jeanne?
Je fais 1m68.
D'accord.
J'ai 56 ans.
D'accord.
Voilà. Donc, en 2015, donc j'ai subi une opération des cervicales. Donc, on m'a remplacé toutes les cervicales d'un côté. Et donc, pour cette opération, ils ouvrent par devant, près de la gorge, hein, en dessous de la gorge. Et du coup, j'ai eu des problèmes après l'opération pour déglutir.
Ouais.
Pendant plusieurs mois. Donc, ce qui m'a fait manger. Mais en mâchant très lentement et vraiment en mastiquant. Et j'ai fait ça pendant 3 mois. Donc déjà en 3 mois, j'avais perdu environ 7 kilos.
Ah ouais, c'est dingue, parce que vous mangiez moins, de fait, Jeanne?
On mange moins, on est rassasié. Et puis, j'étais fatiguée aussi, vous saviez, après d'avoir mastiqué. Bon, je prenais plaisir à manger, mais vraiment pas beaucoup, hein, c'est vraiment un tout petit peu, quoi.
Et ça, c'est drôle. On va rebondir sur ce que vous dites, Jeanne, parce que ça fait partie d'un des commandements que vous avez mis dans votre ouvrage, Julia Bonnemaison. Le fait de manger lentement, et ben finalement, c'est la règle numéro 1 pour manger moins.
Alors exactement. Donc c'est vrai sur la chirurgie de l'obésité, mais c'est vrai pour toutes les volontés de perte de poids, même dans le cadre d'une alimentation équilibrée. En fait, il faut savoir qu'il faut 20 minutes à peu près pour ressentir la satiété. Donc déjà, tout ce que vous mangez avant le laps de temps de 20 minutes, le cerveau n'a pas eu le temps d'enregistrer que vous faites un acte alimentaire, et ce qui fait que vous avez une faim qui est quasiment similaire après la prise alimentaire. Donc de mâcher permet aussi de ressentir plus les saveurs, et généralement on est rassasié plus rapidement, et on a une satiété, donc le fait d'être calé, qui est plus longue aussi dans le temps. Donc naturellement, ça pousse à diminuer les volumes.
Et là, en l'occurrence, on a la preuve vivante. Jeanne, aujourd'hui, vous pesez combien ?
Aujourd'hui, je pèse 80 kilos.
Oui. Et là, votre poids est stable, Jeanne ?
Et j'en perds encore. J'en perds encore. Bon, là, j'ai des problèmes. Ce qui se passe, ce que je faisais aussi, c'est... J'ai des problèmes de dos et de hanches. Je dois me faire opérer des deux hanches. Donc, je marche. Maintenant, je peux plus beaucoup marcher. Je marche, disons, 1,2 km, 1,3 km, pas plus par jour. Mais ça me maintient et je continue à manger vraiment des petites doses, mais c'est avec plaisir, voyez.
Oui, ça c'est important aussi, la notion de plaisir. Et vous vous sentez bien, Jeanne?
Ouais. Le matin, c'est c'est le meilleur, c'est mon plaisir le matin. Je mange 4 carrés de chocolat noir aux noisettes. Avec, disons, un bout de pain, un petit bout de baguette, avec de la margarine. Et ça, c'est mon plaisir avec mon café.
Vous avez bien raison de le prendre, Jeanne, parce que justement, c'est la notion de plaisir qui est vraiment importante. Et d'ailleurs, dans votre livre, Julia, vous dites que finalement, pour mincir, il faut manger. C'est
exactement,
on peut pas s'arrêter.
On a trop souvent fait effectivement des restrictions alimentaires qui étaient très drastiques, avec un contrôle tel qu'il n'y avait plus de notion de plaisir. Donc l'important, c'est aussi l'acte alimentaire, c'est pas juste de la nutrition, ça reste aussi une convivialité et surtout un plaisir. Et il faut que ça reste une activité à part entière, et donc prendre son temps de manger, bien mastiquer et surtout garder du plaisir à ça, c'est vraiment primordial.
Témoignez cet après-midi, on se dit tout au 0810 055 056 pour connaître votre histoire, vous qui avez peut-être été en surpoids, qui vous en êtes sorti ou qui êtes en l'occurrence en post-opération. Venez en parler sur France Bleu 0810 055 056.
Partagez vos bons conseils. On se dit tout sur France Bleu.
On se dit tout sur la perte de poids, sur la perte de l'obésité qui peut paraître évidente comme ça. Quand on mincit, on se dit chouette, je vais pouvoir rentrer dans un pantalon 38-40. Mais en fait, passer la joie et le plaisir, peut-être que c'est un peu plus compliqué que ça. On en parle avec vous. On se dit tout sur l'obésité et Julia Bonnemaison qui est notre grand témoin. 0810 055 056. Vous avez rencontré justement de nombreux patients qui, après coup, après avoir perdu du poids, sont tombés dans des dépressions parce que c'est pas forcément évident de se réapproprier son corps, ce corps nouveau qui n'est pas nous, en fin de compte.
Alors, il y a toujours un moment d'euphorie, effectivement, comme vous le disiez, juste après la perte de poids, parce qu'on réintègre tous les objectifs qu'on s'était fixés, on reporte des bottes, on peut retourner dans les magasins qui, justement, étaient interdits pour les personnes de grande taille. Passé ce moment-là, il y a une période un peu plus compliquée. Déjà, il y a toujours la peur de reprendre. Et si tout d'un coup, ça marchait plus, si tout d'un coup, on reprenait le poids. Ça reste présent même des années après la perte de poids. Donc, ça reste une période un petit peu angoissante. Et il y a tout le changement de la vie à côté. C'est-à-dire que vous avez tout d'un coup envie de vous refaire plus jolie. Donc, pour certains couples, ça peut être difficile aussi sur la jalousie.
Vous avez croisé des cas comme ça,
bien sûr.
Témoignage dans votre
livre. Il y a eu malgré tout beaucoup de cas de divorce après, parce que une femme qui tout d'un coup reprend soin d'elle, qui a envie de se remettre en valeur, c'est pas toujours bien perçu par l'entourage, que ça soit les conjoints, que ça soit les enfants qui comprennent pas. Il y a aussi généralement une volonté d'une hygiène de vie différente. Donc on n'a plus envie d'aller dans les mêmes restaurants, de faire les mêmes sorties, ou une envie de reprendre le sport. Donc ça demande aussi beaucoup plus de temps. Donc c'est vrai que c'est des modifications qu'il faut aussi pas oublier et pas avoir juste l'amaigrissement comme forcément c'est le miracle et c'est le bonheur derrière.
Alors vous avez vécu justement cette situation, peut-être, venez nous en parler. 0810 055 056, on se dit tout sur l'obésité, c'est aujourd'hui sur France Bleu. Alors hormis la préparation psychologique personnelle, dans certains cas, vous en parliez il y a quelques instants, Julia, il y a aussi besoin d'une préparation psychologique de l'entourage. C'est important. Comment on fait ce travail, en fait, pour préparer l'entourage qui...
Alors là, c'est plus effectivement le travail des psychologues. Généralement, c'est pour ça que maintenant, dans les centres pour l'obésité, on a vraiment un travail multidisciplinaire. C'est-à-dire qu'on va retrouver un pôle psychologique, un pôle diététique. Il faut savoir que le poids, c'est pas juste ce que vous mangez. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Et de préparer l'entourage, ça fait partie de l'ensemble. C'est-à-dire que pour arriver à un résultat significatif, il faut aussi que les conjoints, que la famille ou toutes les personnes qui vont être présentes autour de la personne obèse puissent soutenir, puissent dire les bonnes choses, les bons conseils et être présents tout au long du parcours.
Partagez vos bons conseils. On se dit tout sur France Bleu.
Tu n'as qu'à faire un régime et te mettre au sport, ça te fera du bien. Une réflexion dont vous avez peut-être fait les frais si vous avez connu l'obésité, le surpoids. Et une réflexion qui finalement ne sert qu'à une chose, vous faire culpabiliser. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, Julia Bonnemaison, mais la culpabilité, c'est peut-être le meilleur ennemi de toute tentative de perte de poids.
Ah mais clairement, et c'est malheureusement encore ce qu'on trouve même des fois en milieu médical, où même les médecins traitants, des fois vous disent juste il faudrait perdre du poids, mais vous donnent pas de solution. Donc les patients se retrouvent un petit peu démunis face à ça, entre le conseil des proches, t'as qu'à arrêter de manger, t'as qu'à faire ci ou ça. C'est toujours plus facile à dire qu'à faire, et c'est rarement aussi simple.
On s'en rend pas forcément compte, mais en fait les gens, parfois même les proches, peuvent être extrêmement durs et stigmatisants envers les personnes qui souffrent d'obésité.
Alors je pense que c'est le plus difficile justement à vivre pour les personnes obèses, c'est l'entourage, avec les réflexions qu'on peut entendre, dont on a tous été déjà témoins. Arrête de manger dans l'état que tu es, t'as pas besoin de ça. Enfin, toutes ces choses-là que les gens entendent régulièrement.
Et en fait, quand on y pense, c'est sacrément horrible. 0810 055 056 pour vos témoignages autour de l'obésité. Témoignages depuis les Bouches-du-Rhône. Nous sommes en direct avec Alexandra. Bonjour.
Oui, bonjour.
Alexandra, vous avez connu le surpoids, l'obésité ?
Oui, alors j'ai connu le surpoids et je le connais encore en fait. Donc, étant plus jeune, lors de mes grossesses, j'ai eu du diabète gestationnel, donc j'ai pris énormément de poids vu qu'il n'était pas reconnu. Donc ça m'a pas aidée. Donc je suis montée en flèche et il y a de ça 2 ans, j'ai contacté un nutritionniste qui m'a fait faire un régime hyperprotéiné. Donc dans un premier temps, c'était que des sachets.
Ah, donc, que des sachets en poudre.
J'ai mangé que des sachets en poudre matin, midi, soir. C'était très frustrant.
Pendant combien de temps vous avez mangé comme ça, Alexandra ?
Alors ça, pendant la première phase qui est de 2-3 mois, en fait, il faut atteindre des paliers. Hein, donc une fois qu'on a atteint un certain poids, le nutritionniste s'est passé à autre chose.
D'accord.
Je consultais le nutritionniste toutes les semaines. Il prenait des mesures du ventre, des cuisses, des hanches. Tout était mesuré. Donc c'est aussi d'autant plus frustrant. Et de là, donc après, on passe à un deuxième palier où là, on introduit un peu plus les légumes. Les fruits, tout est pesé. Et ça, pendant 4 mois, et ben, j'ai perdu 31 kilos. Donc ça a été très radical pour le coup.
Et très rapide aussi. Hein.
Et très rapide, peut-être même trop. Alors lui me disait que je perdais du poids comme un homme très vite en fait. Donc ouais, c'est bien. Sauf que ben voilà, j'ai pas continué la phase de stabilisation au bout de tout ça. Peut-être j'aurais dû parce qu'au final, ben, j'ai tout repris en flèche quoi. Donc voilà, je retourne case départ. Donc voilà, c'est pas très plaisant. Et là, du coup, je pense plutôt à me faire une sleeve, réduction de l'estomac pour reprendre tout à zéro. Et puis,
Alexandra,
et pour reprendre comme ça.
Alexandra, excusez-moi, mais ça fait combien de temps que vous êtes en surpoids ?
Avant mes 30 kilos, ça faisait ça faisait 10 ans, une dizaine d'années.
Ouais.
Voilà, donc déjà dès ma première grossesse, j'ai pris 30 kilos, donc ça a été radical, je les ai pas perdus. Deuxième grossesse, 30 kilos, donc pareil. Et la troisième, j'ai diabète gestationnel reconnu, donc là j'ai pris que 12 kilos, donc on voit bien là une différence sur un diabète qui est pas reconnu, enfin qui était reconnu tout au moins pour le dernier. Mais le poids, il était là quand même. Donc,
et c'est quoi qui vous a donné le déclic de vous dire « bon allez, je vais me mettre à faire un régime ».
Eh ben, l'effort déjà, parce que je suis vite essoufflée, rien que le fait d'attacher ses lacets déjà, voilà quoi. Les tenues vestimentaires, on s'habitue comme avant. Moi, j'aime mettre des bottes, je pouvais plus les attacher jusqu'au mollet parce que ça rentrait plus. Enfin, c'est des petits détails comme ça qui font que. Et donc, j'ai dit « faudra que je consulte quelqu'un ». Ce que j'ai fait.
Et au niveau de votre entourage, Alexandra, votre compagnon, le père de vos enfants, il en pense quoi ?
Alors lui, je suis pas grosse, entre guillemets. Je suis très bien comme je suis. Mais non, tu n'es pas grosse. Tu es très belle. Donc ouais, c'est sympa. Mais moi, je le vois, quoi, je veux dire.
Et puis, donc,
il veut surtout pas me blesser, mais voilà, je le sais.
Julia, il y a souvent comment dire ? Les gens sous-estiment souvent un petit peu l'obésité avec les conséquences que ça apporte. C'est-à-dire que c'est pas seulement le physique, c'est aussi tous les problèmes de santé qui sont liés à ça. Et d'être au poids comme elle est Alexandra actuellement, c'est pas juste si elle se sent bien dans sa peau, elle peut rester comme ça. C'est-à-dire que forcément, après à long terme, il y aura des problèmes de santé qui vont mettre en jeu jusqu'à son espérance de vie, ou en tout cas qui vont forcément être problématiques par la suite.
Et puis pour revenir sur justement la notion du proche qui n'est pas forcément d'accord pour qu'elle perde du poids, ça peut faire peur aussi, l'opération
en elle-même. Bien sûr, et ça clairement c'est quelque chose qui fait peur à tous les entourages. Mmh. Comment vous avez eu le déclic par contre, Alexandra, de penser à l'opération ?
Écoutez, j'ai de mon entourage des certaines personnes qui ont testé cette opération.
D'accord, il n'y a aucun, votre médecin traitant ou personne ne vous en avait parlé auparavant ?
Il est à 100% d'accord sur mon choix, mon médecin traitant. D'accord. Donc, il m'encourage là-dessus. Donc après, au jour d'aujourd'hui, je suis décidée. Après, je serais peut-être moins décidée sur le bypass, qui est pour moi une opération irrévocable. Ma sœur l'a fait et elle a perdu énormément de poids. C'est impressionnant. Mais en faisant la sleeve, je me dis que le muscle, enfin l'estomac reste un muscle qui peut quand même regrossir. Donc je me dis qu'il y a peut-être moins de risques en faisant celle-ci que le bypass.
Merci beaucoup Alexandra pour votre témoignage. Merci d'avoir eu le courage de nous appeler aussi, parce que c'est pas forcément évident de parler de ce genre de cas. Bon courage dans les Bouches-du-Rhône. Juste un petit détail, Julia Bonnemaison, la sleeve, donc c'est une opération pour réduire l'estomac.
C'est une opération qui réduit le volume de l'estomac. C'est-à-dire qu'on enlève les deux tiers de l'estomac et à la place que votre estomac forme une poche, il y a une tubulisation, c'est-à-dire que l'estomac sera sous forme de tube. C'est un peu le même principe que l'anneau gastrique, sauf que l'anneau gastrique, on fait appel à un corps étranger qui vient faire cet effet restrictif. Et le bypass, c'est de la malabsorption, c'est-à-dire qu'on réduit le volume de l'estomac et derrière, il y a une malabsorption.
Julia Bonnemaison, diététicienne et auteure de l'ouvrage Chirurgie de l'obésité et diététique.
Des moments de vie uniques, des histoires universelles. On se dit tout sur France Bleu.
Changer ses habitudes alimentaires sur le long terme peut devenir un vrai parcours du combattant. On vous invite à raconter le vôtre, l'avant, l'après, le pourquoi de la perte d'obésité. On choisit peut-être de faire un régime suite à un événement, suite à des problèmes de santé également. La chirurgie de l'obésité peut être également une solution. Mais c'est pas tout le monde qui souhaite perdre du poids. Quel a été le déclic pour vous ? On vous attend au 0810 055 056 avec une oreille bienveillante et attentive. C'est Julia Bonnemaison, notre grand témoin diététicienne, qui est avec nous pour en parler et écouter tous vos témoignages. On se retrouve dans les Alpes-Maritimes, Julia, si vous le voulez bien, direction Nice.
Et bien avec plaisir.
Sous le soleil, avec Tony. Bonjour Tony.
Bonjour.
Merci de nous appeler Tony, oui.
Je suis sous le soleil, mais dans les Deux-Sèvres, vous voyez.
Ah d'accord.
Du côté de Niort, oui, je suis représentant. Et donc, toujours en tournée. Mon histoire, moi j'ai 60 ans, à 9 ans j'étais déjà bien portant, de famille sicilienne, il fallait manger un petit peu tout ce qu'il y avait dans l'assiette. Hein.
Ah, les pastas, la sauce.
C'était après la famine qu'ils avaient connue. Donc j'ai commencé à faire des régimes jeunes, à l'armée je faisais 90 kilos, donc ça allait un peu mieux, après... La vie a fait que j'ai continué à prendre du poids et du poids et du poids pour monter à 128 kilos. Donc en 98, j'ai décidé tout au début de l'anneau gastrique, de mettre un anneau gastrique. Je suis redescendu vers 96, 90 kilos. Et puis, je m'en suis contenté, quoi. Hein. Sauf qu'après, c'est rebelote, repoids à nouveau. Donc il y a 5 ans, j'ai décidé de passer au bypass. J'ai fait le bypass, j'étais à peu près à 110, je suis redescendu sur 87 kilos, qui n'était pas, je dois dire, mon poids idéal. Je ne sentais pas comme... je peux pas dire que je me sens... J'étais maigre pour moi, façon de parler, mais pas dans mon poids idéal. Mon épouse, elle fait 50 kilos tout mouillé. Donc, il y a une grosse différence. Et là, il s'avère qu'après, par contre, je pouvais faire du sport. Enfin, du sport, j'allais courir, les baskets dans la voiture, et le soir, c'était plus facile d'aller courir, quoi. Quand on est toujours sur les quatre chemins, c'est pas facile. Donc après, je reprends du poids. Je reprends du poids, j'en suis à 98 à peu près. Et bon, il y a eu un souci, que j'ai eu une opération d'un genou où on a dû me poser une prothèse parce que le fait de courir, ça m'a abîmé un peu les genoux.
C'est intéressant ce que dit Tony par rapport à ça. Justement, le fait après de rechanger d'enveloppe corporelle nous incite à faire d'autres activités qui peuvent justement nous faire du mal quelque part.
Alors c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Après, il faut savoir que c'est plus l'obésité qui abîme les articulations que vraiment là, le fait d'avoir repris la course à pied quand même pour son opération du genou. Donc après, est-ce que vous avez été suivi, Tony, pendant votre bypass, après votre bypass, au niveau diététique et psychologique, est-ce que vous avez eu un suivi derrière ?
Alors, il y a eu un suivi, oui, mais vous voyez, si je devais faire un reproche à toutes ces opérations, eh ben, c'est le suivi. Parce que je trouve qu'on est heureux, hein, évidemment, on a perdu du poids, on est content, tout va bien, on arrive à manger beaucoup moins, on arrive à supprimer l'alcool, tout ça, et puis on a des rendez-vous à l'hôpital, où on a des gens, à pas remarquer des chiffres, et ils font rien de plus, vous voyez.
Ah, mais vous êtes...
Je ferai le reproche.
Vous ne vous êtes pas senti suivi, en fait, Tony, c'est ça l'idée.
Voilà. Tout à fait, parce que marquer des chiffres de poids et de taille et des mensurations, c'est facile, mais après, moi, pour ma part, si je devais donner un conseil aux gens, c'est que c'est comme la cigarette, au bout d'un an, on n'est pas guéri, au bout de deux ans, on n'est pas guéri.
Alors l'obésité, c'est une maladie chronique, c'est-à-dire que toute votre vie, effectivement, il faudra que vous y fassiez attention et que ça ne se guérira pas, il faudra que vous ayez une hygiène de vie contrôler effectivement pendant le restant de vos jours. Après, sur la qualité des suivis, ça dépend vraiment d'une équipe à l'autre. Après, c'est dommage si vous n'avez pas pu bénéficier d'un suivi plus optimal.
Et aujourd'hui, Tony, vous faites attention à votre alimentation ? Vous
Alors,
avez un régime spécial ?
Ouais. Quand je vais au restaurant à midi, eh ben, j'évite l'alcool. Hein, bon, déjà, je suis sur la route, donc déjà une chose. Mais si je suis plutôt joyeux de rire, fêtard et tout ça, carnaval et tout, et j'aurais tendance à me laisser aller. Même si au niveau du repas, des quantités, elles sont pas là, j'ai de la chance, j'ai pas de diabète, j'ai pas de cholestérol. Vous voyez, au niveau bilan sanguin, ça va, je fais un peu d'hypertension, mais qui est régulier.
Mais pas forcément évident pour maintenir un poids stable, on l'a bien compris. Merci beaucoup, Tony, pour votre témoignage depuis non pas les Alpes-Maritimes, je sais même plus d'où il nous appelait, du coup, les Cévennes. Merci beaucoup, Tony.
Vos témoignages, vos expériences. On se dit tout sur France Bleu.
Vos expériences en tant que victime de l'obésité, du surpoids ou de quelqu'un de très proche qui a peut-être été victime d'obésité, on en parle sur France Bleu dans On se dit tout avec Julia Bonnemaison qui est diététicienne. Et nous avons Dominique qui nous a appelé pour nous laisser un message. Dominique qui nous a dit qu'elle s'était reconnue dans le témoignage de Tony que nous avons eu quelques minutes auparavant en nous disant c'est vrai qu'il n'y a pas de suivi après l'opération, il n'y a pas d'aspect de bienveillance. Et ça c'est quelque chose que vous mettez en exergue dans votre ouvrage. Julia, le fait qu'il n'y a pas de suivi après les opérations de chirurgie de l'obésité et que c'est un vrai problème.
Alors à savoir que ce n'est pas toujours de la faute de l'équipe, c'est-à-dire que moi je vois par exemple sur les centres où je travaille le suivi proposé, mais les patients une fois qu'ils ont perdu du poids, sont tellement un petit peu comme on disait tout à l'heure dans l'euphorie de la perte de poids, qu'ils ne veulent pas spécialement revenir après et puis ça y est on a perdu, maintenant tout va bien et qu'ils n'en voient pas la nécessité. Et on les voit revenir des fois un an après quand justement la reprise de poids a déjà eu lieu.
Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait d'autres moyens mis en place.
Exactement.
Le suivi qu'on va peut-être évoquer avec Nathalie qui nous appelle depuis les Pavillons. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Alors les Pavillons, excusez-moi, mais c'est où?
Alors c'est les Pavillons sous bois, c'est dans le 93.
Ah
vous
d'accord,
pas parfait.
Seine-Saint-Denis. Nathalie, vous venez nous parler, vous, de votre fils qui était obèse,
oui,
à 15 ans.
Voilà, tout à fait. Il faisait 106 kilos pour 1m85 à peu près.
Ouais.
Alors bon, il a toujours été toujours un petit peu costaud, même petit, parce que il était toujours au-dessus de la courbe de poids depuis qu'il est né. Bon, au-dessus pour la taille, donc on s'inquiétait pas plus que ça. Et puis il a commencé à avoir la courbe de poids qui grandissait plus que la taille. Donc,
Et lui, était, bon, le reste. Il s'en plaignait, Nathalie, il le vivait mal, cette situation?
Alors, lui, vis-à-vis des copains et tout à l'école, au collège, ça lui posait pas de soucis. Où il râlait un peu, c'est quand il fallait acheter des habits. Parce que dans les boutiques pour les adolescents, quand il voyait des modèles qui lui pesaient, essentiellement pantalon, parce que lui, c'était très, très fixé au niveau du ventre, on va dire, toute la bouée autour. Et c'est vrai que quand il voyait des modèles, il pouvait pas attacher, puis il y avait pas la taille au-dessus. Donc bien sûr, il faisait un petit peu la tête parce que il était obligé de se limiter beaucoup au survêtement, au jogging. Et puis quand on prenait les tailles au-dessus pour que ça aille au niveau de la ceinture, au niveau des fesses, par contre, ça flottait et ça faisait franchement moche, quoi. Donc on a essayé modérément de limiter aussi au niveau de la nourriture parce qu'il a un très bon appétit. Et une fois en allant à un rendez-vous pour moi, il y avait des petites cartes de visite, dont une d'une diététicienne, que j'ai pris. Et en rentrant à la maison, j'en ai parlé. Bon, il n'a pas trop accroché plus que ça, donc j'ai pas insisté. Et puis, 2-3 mois après, il m'a demandé si j'avais toujours cette petite carte. Et puis finalement, bah, il voudrait bien y aller. Donc bon, je sais pas, ça a dû faire son petit bout de chemin dans sa tête. Et du coup, bon bah, j'ai dit on va prendre rendez-vous. Donc on a pris rendez-vous. C'était bah, l'été, donc on a pris rendez-vous. Donc c'était à une diététicienne qui nous a demandé bon, si on partait en vacances et tout. Donc comme on partait au mois d'août, elle me dit le mieux, bon, c'est de prendre début septembre retour. Elle me dit comme ça, il peut bon bah continuer, on va dire profiter de ses vacances. Comme il veut.
Oui, il n'y a pas eu de pression, mais donc il n'a pas pensé à un seul moment à faire un régime, Nathalie, faire un régime drastique.
Non, bah lui non, et puis bon, je pense qu'il m'en aurait parlé. Bon, l'avantage c'est que c'est moi qui vais le manger à la maison, donc j'aurais refusé aussi parce que bon, j'ai des connaissances qui en ont fait, et comme j'entendais beaucoup de personnes tout à l'heure. Eh ben, le régime, on perd, et dès qu'on l'arrête, ouais. Et ben, ça reprend elle, et plus.
Elle en a Julia Bonnemaison qui approuve de, qui opine du chef.
Oui, 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 effectivement. Et puis surtout, ça montre bien qu'il faut vraiment l'adhésion des enfants pour que quelque chose réussisse. Et malgré tout, d'aller voir une professionnelle de santé, surtout en diététique, ça a toujours plus de poids que ce que les parents pourraient faire passer comme message.
Et alors, la finalité, Nathalie, de cette histoire avec diététicienne?
En 3 mois, il a perdu 20 kilos. Donc ça, il a commencé son régime en septembre 2015 et avant les fêtes de Noël 2015, donc 2 mois et demi, 3 mois après, et il avait perdu 20 kilos.
Et aujourd'hui, ça se passe comment, Nathalie? Il a stabilisé son poids?
Il les a pas repris. Alors bon, chouette. Il en reprend un ou deux de temps en temps, par rapport des fois aux fêtes, bon, aux vacances, comme là on est parti au sport d'hiver. Bon, c'est beaucoup moins léger au niveau de la nourriture, donc... Il a peut-être pris 1 ou 2 kilos, mais quand on revient à la maison, on refait l'hygiène alimentaire.
Et il a été suivi combien de temps, Nathalie, votre fils?
Alors là, on a stoppé le suivi avec la diététicienne en début d'année, en février, en janvier, mars, février. On a arrêté la dernière séance.
D'accord. Et on espère que ça va bien se passer en tous les cas pour lui sur le long terme. Merci beaucoup Nathalie de nous avoir appelé depuis l'Île-de-France. On recueille encore vos témoignages au 0810 055 056. Vous qui avez connu de près ou de loin l'obésité.
Partagez vos bons conseils. On se dit tout sur France Bleu.
Et on écoute vos témoignages passionnants depuis 1 heure, ces témoignages qui concernent ceux qui ont été victimes d'obésité ou qui le sont encore. Julia Bonnemaison est notre grand témoin aujourd'hui pour parler justement de cette difficulté à se sortir du surpoids. On va terminer cette émission depuis l'Isère avec Marie-Agnès. Bonjour.
Oui, bonjour. Alors moi, j'ai essayé de me faire poser un anneau gastrique après avoir fait des régimes. Je suis allée voir une diététicienne comportementaliste. Bon, c'était sans effet.
Vous avez tout essayé, en gros, si on peut résumer, Marie-Agnès.
Oui, oui.
Globalement, les régimes, ça, vous avez fait lesquels? Vous en avez fait...
Alors,
vous avez enchaîné
les régimes dissociés. Enfin, c'est vrai qu'on perd. J'ai perdu 12 kilos, mais on les reprend très vite.
C'est pas efficace, ouais,
comme à chaque fois, pratiquement.
Rester toute sa vie sous régime, quoi.
Et vous viviez comment ces reprises de poids, Marie-Agnès, psychologiquement?
Ben, c'est des échecs. Je baissais les bras, quoi. C'est pas tenable de toujours faire des régimes, de reprendre, de faire des régimes, de reprendre. Voilà, c'est pour ça que j'étais un peu désespérée et que j'ai essayé l'anneau gastrique.
Là, à quel moment vous êtes dit que vous alliez mettre l'anneau gastrique, Marie-Agnès?
Eh ben, c'est venu petit à petit parce que j'ai vu des personnes qui en avaient et que ça avait bien réussi. Ça me faisait envie. Et puis il y avait les médecins qui me disaient non, faut pas le faire. Et,
ah ouais.
Bon, il y a des personnes qui me disaient faut pas le faire et ça me faisait pression un peu sur moi. Et j'ai quand même tenté.
Et alors?
Et alors, donc j'en suis à 30 kilos. Je perds doucement puisque 30 kilos en 4 ans, c'est pas beaucoup. Mais ça me va comme ça, je me prends pas la tête.
Et vous pesiez combien à la base, Marie-Agnès?
120 kilos pour 1m75.
D'accord. Donc en 4 ans, perdre 30 kilos, finalement, c'est peut-être même mieux de perdre.
C'est correct, en tout cas. Il n'y a pas une perte de poids moyenne. Après, vu que l'anneau gastrique, ça reste un dispositif qui est ajustable, on peut justement modérer la perte de poids et faire une perte de poids plus douce. Mais ce qui est important, c'est que ce n'est pas une course de vitesse. L'important, c'est que vous ne le repreniez pas, peu importe que vous les ayez perdus en 4 ans ou en 2 ans, Marie-Agnès.
Oui, je le vis tout à fait comme ça. Et j'aurais envie de dire aux autres personnes d'essayer. Et puis à la fois, je me dis, ben non, parce que moi, j'ai réfléchi, ça a fait son chemin dans ma tête et j'avais envie de le faire après. Et je pense que comme c'est un peu contraignant, il faut être bien, bien motivé pour le faire.
Marie-Agnès, est-ce que vous vous sentez comme si vous étiez quelqu'un d'autre après ces 4 ans, avoir perdu ce poids, ça?
Ah oui, totalement. Hein. Je me sens quelqu'un d'autre. J'osais même plus revoir mes amis tellement j'avais honte. Je supportais pas voir quelqu'un de gros dans la rue. Je me disais, mais elle fait rien pour ça, cette personne, comment ça se fait? En fait, c'est moi que je rejetais à travers des personnes que je voyais.
Tout en ayant un regard très dur sur les autres. Rapidement, Marie-Agnès, suite à cette opération, vous avez un suivi de la part des médecins?
J'ai un suivi. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi certaines personnes disent qu'il y en a pas. Moi, je suis suivie. Je vais au minimum une fois par an voir un nutritionniste. Là où je me suis fait opérer, donc qui est spécialisée là-dedans.
Ouais, donc là, nous avons Julia Bonnemaison qui jubile parce qu'effectivement, c'est la marche à suivre normalement qui devrait être mise en place à chaque fois. Merci beaucoup Marie-Agnès pour ce témoignage touchant. On vous souhaite très bonne continuation et poursuivez sur cette lancée. Voilà, ça va le faire.
Il n'y a pas de raison.
Comme disent les jeunes. Et merci infiniment, cette émission est déjà terminée. Julia Bonnemaison, merci d'avoir été avec nous en direct.
Je vous remercie également.
Sur France Bleu.
Un plaisir.
Et je rappelle que votre livre « Chirurgie de l'obésité et diététique » est sorti il y a quelques semaines aux éditions L'Harmattan, que c'est un guide extrêmement complet, sans fioritures, très humain, qui donne des explications scientifiques, mais aussi des recettes culinaires à suivre, des témoignages poignants et bien évidemment des conseils précieux sur la marche à suivre d'une opération et les conséquences engendrées pour perdre son surpoids. Merci encore d'avoir
Merci
été
à vous.
Avec nous. Demain, nous recevrons Patrick Collignon et nous allons parler du stress avec ce livre qu'il a écrit. Merci mon stress. Comment faire de son stress un allié? On vous attend dès demain.